Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Pour une nouvelle politique de la culture. Bonjour à tous et toutes, notre rendez-vous d'aujourd'hui est très particulier car c'est le 50e numéro de La Valeur de l'Homme sur Fréquence Protestante et je suis très honoré de le passer avec une invitée prestigieuse, Laurence Angèle, présidente de la Bibliothèque Nationale de France. Avec elle, nous allons évoquer toute l'importance que peut et doit avoir la culture dans notre pays. Un lien particulier unit en effet l'État français et la culture qui se manifeste dans la création du ministère de la Culture en 1959, dans des figures présidentielles amies des arts et des artistes, et bien sûr dans une politique culturelle qui a pu être offensive et volontariste. Cette politique culturelle poursuit des ambitions variées. Il s'agit de faire échapper la culture à la marchandisation, de fabriquer un grand récit national, mais aussi de fabriquer un citoyen idéal, car la culture élève et édifie. Comme le dit mon invité, elle n'est pas simplement un rempart mécanique à la barbarie, mais le triomphe de l'imaginaire, une forme d'émancipation individuelle, de découverte et de liberté de conscience. En France, pourtant, elle apparaît désormais comme relevant d'un univers superflu, pour lequel des politiques dédiées n'apparaissent plus nécessaires, voire se révèlent inutilement dispendieuses. D'où le développement d'un discours qui ne vise plus qu'à faire des économies. Discours qui va par exemple valoriser le numérique contre les supports physiques et rêver de bibliothèques sans livres. Et la part de la culture dans le budget ne cesse de reculer. À rebours de ces pratiques, il faut affirmer que la politique culturelle est un instrument de la démocratie. Il faut rappeler que le secteur de la culture, c'est 3,2% du PIB, près de 58 millions d'euros, soit 7 fois plus que le secteur automobile. Il faut dire que la culture, c'est un patrimoine à valoriser et à diffuser largement. La culture, c'est enfin l'art de raconter des histoires, notre histoire collective, mais aussi toutes ces histoires qui tissent les fictions, des films aux séries. Et cette mise en récit est une fonction vitale dans nos sociétés, la scène où nous nous projetons. Bonjour Laurence Angèle.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Laurence Angèle, vous êtes normalienne, énarque, vous êtes présidente de la Bibliothèque Nationale de France, vous avez travaillé auprès de plusieurs ministres de la Culture, Catherine Tasca et Aurélie Filippetti, à Paris aux côtés de Bertrand Delanoë. Vous avez été également médiatrice du livre, auteur enfin de plusieurs essais. Je vous reçois aujourd'hui pour le dernier paru, Que peut la culture, aux éditions Bartilla, une maison d'édition dirigée par Charles Fica, qui est aussi animateur sur Fréquence Protestante et que je salue ici. Laurence Angèle, le point de départ de votre ouvrage, c'est un étonnement ou une inquiétude à l'égard du fait que peut-être nos élites, nos politiques seraient déconnectées de cette importance de la culture ou de la volonté de lancer des politiques culturelles. Il s'est passé quelque chose ces 20 dernières années, peut-être ?
Le point de départ de ce livre, c'était d'abord et avant tout l'envie de raconter... À travers cette expérience qui est la mienne, puisque j'ai consacré toute ma vie professionnelle ou quasiment à la politique culturelle, ce que j'avais effectivement ressenti. Alors, 20 ans, parce qu'il se trouve que c'est à peu près un peu moins la durée de cette vie professionnelle, et que par rapport au moment où j'entrais dans cette vie professionnelle, c'est-à-dire peu de temps, enfin un moment où en tout cas l'air... on peut l'appeler comme ça, langue Mitterrand, avait amené à s'intéresser aux politiques culturelles, je pense, bien d'autres que moi, jeune, futur fonctionnaire, avec cette idée que tout le monde avait envie de s'associer à cette dimension des politiques publiques. Et entre ce moment où je décide de faire cela, alors pas parce qu'il y avait eu Jack Lang et François Mitterrand, mais parce que c'était vraiment le secteur qui m'intéressait, et celui où j'ai commencé à travailler, il s'était en effet passé quelque chose. Et en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est cette espèce de distance que vous évoquez entre ce qui était apparu jusque-là comme une évidence de la politique publique, des politiques publiques, une prise de distance entre cette évidence et ce qu'on a été amené à vivre depuis une vingtaine d'années et qui n'est peut-être pas un rejet de la culture, mais en tout cas qui est une forme d'incompréhension, d'indifférence, quelque chose qui était très différent de ce à quoi j'avais rêvé. Donc j'avais envie effectivement de le raconter. Pour autant, et d'ailleurs dans les termes que vous utilisez pour raconter ce qu'a été la politique culturelle ou ce qu'elle pourrait être, on retrouve des termes qui ne sont pas seulement ceux des politiques culturelles, qui sont ceux qu'on associe aux politiques publiques d'une manière générale. ce thème fort et qui ne décroît pas malheureusement de la remise en cause du bien public, du bien commun, des politiques publiques, du rôle de l'État. Donc finalement, dans le domaine culturel, quand on y travaille, on a le sentiment qu'on est regardé de travers et mal aimé, mais au fond, c'est bien plus largement les politiques publiques qui sont remises en cause et la culture n'en est qu'une illustration forte.
Une parmi d'autres. Si on veut essayer de comprendre ce phénomène qui s'est produit depuis une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'on peut identifier ? Il y a un problème de formation des élites à l'importance de la culture, à l'histoire de l'art, ou il y a peut-être un changement de personnel politique avec des gens qui sont plus des gestionnaires ? Laurence Angèle.
Et qui peut-être précisément n'ont pas été formés avec cette dimension. C'est vrai que si on va un petit peu plus loin ou ailleurs, un pas de côté par rapport à la politique culturelle, ce qui marque, ce qui frappe les choix que font les uns et les autres en matière d'éducation pour leurs propres enfants, c'est tout de même cette espèce de survalorisation des filières scientifiques et à contrario, une forme d'abandon des filières littéraires ou de ce qu'on appelait bien avant que nous ne soyons à l'école nous-mêmes, les humanités. Enfin, cette idée que les humanités étaient ce vers quoi il fallait se diriger était très fort donc bien avant, il y a 20 ans, et de moins en moins fort. Alors, si on se reporte plus loin encore, même si je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de l'éducation, mais cette figure de l'honnête homme ou avant cela de l'humaniste est un homme qui est capable d'appréhender la totalité des savoirs, savoirs scientifiques et savoirs des sciences humaines, qu'on appelle maintenant les sciences humaines. Les choses étant de plus en plus techniques, on a abandonné cette capacité pour beaucoup, pour la plupart d'entre nous, à avoir une vision globale des savoirs. Mais ce qui est certain, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, peut-être même 40 ans, les filières qui sont valorisées sont les filières scientifiques. Donc, immanquablement, je pense que ça alimente la nature, la relation que peuvent avoir les élites, pas seulement les élites politiques, d'ailleurs, les dirigeants d'une manière générale, avec les matières littéraires, sciences humaines, donc ces humanités, et la culture comme un des exemples de ce qu'elles peuvent apporter. Et oui, ce qui est valorisé, c'est à travers les valeurs scientifiques, les matières scientifiques, au-delà la gestion, qui devient quand même l'alpha et l'oméga du management si on est dans l'entreprise, de la direction si on est dans le secteur administratif, avec cette hantise de la dépense, excessive, de la dépense inutile, et où on le sent bien, on a une petite difficulté à apprécier ce que veut dire une dépense utile ou une dépense inutile. Donc oui, cette pression ou cette passion même pour la gestion, qui est celle avec laquelle je vis comme fonctionnaire, pas moi-même, mais à laquelle je suis confrontée depuis que je suis devenue fonctionnaire il y a fort longtemps, explique sans doute pour une part importante ce regard un petit peu ironique, un petit peu distant qu'on peut porter sur la culture. De temps en temps, ça prend la figure quasiment d'une forme de revanche, parce que la culture est aussi éventuellement ce dont on ne peut pas parler ou ce dont on ne sait pas parler, ce dont on ne s'autorise pas parler, ce qui est un vrai problème du point de vue de la politique culturelle d'ailleurs, ce qui représente le fait du prince, c'est-à-dire la décision irrationnelle, la passion pour tel artiste plutôt que tel autre, Louis XIV qui choisit un tel plutôt qu'un autre, toute notre histoire culturelle et politique. Et le retour en force ou la présence forte de l'argument gestionnaire miroite, comme on dit, avec la culture, parce qu'on a le sentiment que la culture n'est pas ne peut pas être appréhendée à travers ces critères rationnels, mécaniques, exclusivement chiffrés. Donc tout ça, sans doute, explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Elle rentre pas dans les cases. Laurence Angèle, ce changement, ce passage s'engage à une espèce de gestion rationnelle. Il se voit aussi, vous en donnez des exemples frappants dans votre ouvrage, dans les modifications de la langue et du langage. Il y a toute une espèce de novlangue gestionnaire, rationalisatrice qui a pris le pouvoir. Par exemple, vous dites maintenant c'est le triomphe de l'expression spectacle vivant. On dit plus commissaire, on dit curateur, on multiplie les acronymes. Là, on a vraiment les symptômes de cette montée en puissance du langage gestionnaire.
Comme dans tous les secteurs aussi.
Hein. Les acronymes,
c'est... on les aime bien. Dans les intitulés que vous évoquez, alors c'est pas central, je m'en moque un petit peu, parce qu'évidemment, quand on les regarde avec un peu plus d'humour, ces termes, quand on baigne dedans et on se dit, enfin vraiment, pourquoi parler de spectacle vivant? Qu'est-ce que cela veut dire? À quoi est-ce que cela renvoie? Est-ce qu'il y a une partie de la culture qui serait morte? Parce que d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi.
Parce qu'elle ne serait pas animée par des gens vivants, mais de toute façon, ils sont quand même.
Les gens sont là et pour animer le patrimoine, il y a des restaurateurs, des conservateurs, des amoureux du patrimoine qui en parlent. Donc il y a toujours cette dimension bien vivante. Donc je me moque un petit peu de ces termes qui renvoient pour ce qui est de spectacle vivant, à une forme de rejet de la politique en faveur du patrimoine. Ça, c'est un révélateur d'un axe fort de la politique culturelle, notamment à partir de 1981. Ça, c'est quand même très lié à ce renouveau de la politique culturelle au moment de l'arrivée au pouvoir de la gauche. Je me moque du terme de lieu de vie, parce que ça, c'est simplement un terme qu'on c'est du marketing.
Il faut que tout devienne un lieu de vie, de la MJC de quartier à la bibliothèque.
Ça l'est, tous ces lieux sont bien des lieux de vie, mais ce qui est agaçant, c'est cette capacité qu'ont tous les porteurs de projets de manière vraiment systématique à utiliser ce terme-là. Et c'est dans la dimension systématique de l'utilisation d'un terme qu'on comprend que finalement, il renvoie simplement à une vision marketing. Donc là, oui, c'est lié à ce développement d'un langage du gestionnaire qui va avec celui du marketeur. Mais dans le fond, ce qui est, c'est pour ça aussi, tous ceux qui travaillent dans le secteur culturel ne sont pas que des doux rêveurs, ne sont pas que des amoureux des arts, ne sont pas que des défenseurs absolus des créateurs. Ils ont aussi, c'est mon cas et pour moi c'est très fort, cette conscience de ce qu'apporte en effet la culture au-delà de cette dimension qui est très intime, qui est très personnelle. Depuis, je parlais de Louis XIV, on parle de François Ier, on peut remonter très loin dans ce lien qu'il y a entre le politique et le monde des arts, mais du point de vue de l'artiste, il y a avant tout une dimension qui est purement personnelle, une nécessité absolue de créer. Donc ça, c'est la part purement personnelle. Mais si on se place du point de vue des politiques publiques, aujourd'hui comme sous les princes, en réalité, on trouve bien ce lien entre la création et l'économie, entre donc l'intimité d'un acte de création ou d'une nécessité de créer quelque chose qui est très intime, qui est très personnel, et l'intérêt que peut trouver la conscience d'un intérêt, y compris du point de vue des citoyens, que peut avoir un État, une forme politique à soutenir ce secteur. Donc ça n'est pas que quelque chose de complètement...
Hors du monde. La culture est complètement
dans le monde. Elle est dans l'économie. Elle sait ce que gérer veut dire. Elle sait ce que produire veut dire. Elle sait aussi l'intérêt que peut avoir du point de vue, par exemple, c'est une banalité que de le dire, l'économie du tourisme, quand on a un patrimoine qui est aussi divers et magnifique, celui qui est le nôtre en l'occurrence. Donc il y a bien un lien avec cette économie. Donc c'est aussi quand on est du côté des politiques publiques, pas seulement du côté des créateurs, des artistes même, du côté des politiques publiques, on voit bien pourquoi il y a une politique culturelle qui peut très rationnellement se développer. Donc on peut être surpris, vous parliez d'étonnement en commençant, on peut être surpris fruit de cette réaction d'un monde qui d'élite, oui, c'est vrai, qui rejette ce champ d'activité parce qu'on lui reproche d'être trop coûteux. C'est moins d'1% du budget de l'État, donc c'est tout sauf coûteux.
C'est pas ruineux à ce point.
C'est vraiment pas ruineux, qui renvoie à un secteur économique très vif, qui permet d'attirer par ailleurs, on parle d'économie indirecte ou de quelque chose qui est difficile à chiffrer mais qui existe. Les externalités positives, comme disent les économistes. On sait que tout cela existe. Et là, on est dans le champ de l'économie et puis dans le champ de la démocratie, parce que c'est vrai que ça existe aussi. De la même manière, c'est difficile de démontrer qu'une diffusion de la culture, de la même manière qu'on assure la diffusion grâce à un système éducatif fort, qu'on améliore le sort d'une démocratie. Il n'y a aucune garantie à cela. Mais ce qu'on sait, à contrario, il n'y a aucune garantie parce qu'on voit bien que des pays qui sont développés, qui ont une école gratuite et accessible à tous, qui ont fait des efforts très importants en termes de politique publique pour diffuser, généraliser un certain nombre de biens communs, cela ne garantit pas un fonctionnement démocratique absolument fluide. Mais à l'inverse, et notre histoire et notre quotidien et notre actualité le confirment jour après jour, tous ceux qui ne souhaitent pas voir des régimes démocratiques prospérer s'attaquent d'abord à la culture parce que il y a là un risque d'accès à la liberté qui peut faire peur. Donc tout nous démontre qu'une politique culturelle est intéressante en soi, intéressante du point de vue du fonctionnement d'une démocratie, éventuellement et même très certainement intéressante du point de vue économique. Et pourtant, on s'en détache de manière, pour ceux qui y croient, assez incompréhensible.
Vous parlez de la revanche tout à l'heure, Laurence Angèle. En vous lisant, je me suis aussi demandé s'il n'y avait pas une revanche de certaines élites contre la culture dite bourgeoise, par opposition à une culture populaire. Vous donnez un exemple dans votre ouvrage, c'est la place des Halles, je crois, où on va effectivement, alors c'était le grand moment dans les années 80-90, survaloriser les cultures urbaines au détriment de la grande culture ou la haute culture ou la culture légitime, entre guillemets. Il y a quelque chose de cet ordre qui s'est joué. On va jouer l'une contre l'autre.
Il faut faire attention à la manière dont on présente les choses. Moi, le terme de bourgeois, c'est pas celui que je revendique. C'est une réalité historique et sociologique. Ce que je trouve frappant, et c'est vrai que j'interroge un petit peu une partie des politiques de gauche, entre guillemets. On a pu constater, en tout cas moi j'ai constaté dans un certain nombre de milieux politiques une espèce de rejet de ce qui est présenté par eux-mêmes comme étant une culture bourgeoise. Donc ça prend la forme de la bibliothèque d'une manière générale avec la lecture, lire des romans du 19e siècle, c'est un acte quasiment de classe et si on continue de soutenir la lecture des classiques alors on ne comprend pas ce que sont les envies, les besoins des vrais gens qui lisent d'abord de la BD. Alors je trouve que moi je au contraire je pense qu'il faut s'intéresser à toutes les formes de culture. Évidemment les cultures urbaines ont complètement irrigué, irriguent aujourd'hui l'ensemble des institutions culturelles. C'est une forme d'expression qui est extrêmement importante. La BD, il n'y a plus une personne pour considérer que ça n'est pas un art et une production éditoriale extrêmement importante. On a beaucoup bataillé au ministère pour valoriser les cultures dites populaires au même titre que toute forme de culture. Mais ce qui me choque, c'est la capacité à considérer que ce qui appartient au champ supposé être bourgeois serait invalidé, serait au contraire, donc effectivement il y a une espèce de retournement, devrait ne pas, en tout cas on reproche à cette culture d'avoir trop de place, je ne sais pas où est-ce qu'elle a trop de place, on voudrait absolument distinguer les cultures entre guillemets, populaire, davantage que les cultures classiques. Ce qui revient à... Alors, le KDA, là, je raconte ce moment que j'ai connu de l'intérieur où... où s'est posée la question de savoir si on allait agrandir ou pas agrandir la bibliothèque et le conservatoire au sein du Forum des Halles au moment de la construction des nouvelles Halles. La question n'était pas en soi intéressante, mais c'est l'argument qui a prévalu pour dire non, surtout pas, ou en tout cas pas autant qu'on pourrait le souhaiter, privilégions la création d'un centre de hip-hop, donc la place, qui est en soi extrêmement intéressant, mais c'était la manière de le présenter qui était surprenante. C'était de dire, ben non, le conservatoire, ça n'intéresse personne, alors même qu'il y a des files d'attente tous les ans parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les conservatoires, et notamment à Paris. Favorisons contre cette culture dite bourgeoise une autre typologie d'institutions culturelles. Et voilà, c'est dans ce retournement que je trouvais qu'il y avait matière à s'interroger sur les objectifs d'une politique publique. D'autant plus que, me semble-t-il, on parle à la place des gens eux-mêmes quand on dit cela. Les cultures urbaines se développent fort bien et c'est une bonne chose. La demande de conservatoires de formation pour les enfants pour accéder à des musiques qui comprennent d'ailleurs les musiques dites populaires, le jazz, la variété, la chanson et le hip-hop. À qui a-t-on demandé que l'on préférait un centre de hip-hop plutôt que davantage de place dans une conservatoire? Je ne sais pas. Donc c'était vraiment un petit peu cette réaction. Là aussi, on parle à la place des gens. On a tendance à considérer que les gens n'aiment pas le patrimoine, que le patrimoine dans son ensemble serait une vision iconique de la culture bourgeoise. Ça ne me paraît pas avéré par la réaction des gens qui, dans la rue, aiment tous avoir un beau patrimoine protégé, se bousculent pour aller visiter les bâtiments et les monuments historiques parce que ça renvoie à leur histoire, ça leur raconte une histoire, ça leur permet de comprendre cette histoire et ils apprécient des choses qu'ils aiment tout simplement. Donc,
ce qu'on disait sur le grand récit national, enfin sur ce récit patrimonial, en tout cas sans péjoration des mots.
Oui, et sans vision politique. C'est vrai que là aussi, on s'est laissé, comme dans beaucoup de champs, on s'est laissé contaminé par le fait que le discours sur le patrimoine, le discours sur un récit national, alors il faut faire attention avec ce terme parce qu'il est totalement connoté, mais c'est cette connotation qui est dangereuse. On se laisse impressionner par le fait que certains revendiquent ce terme pour eux-mêmes sur le champ politique et que dès lors, si on s'oppose à eux politiquement, alors on doit s'opposer à cette idée du récit national. Il était évident que dans le champ de la création, les artistes ne sont pas là pour porter un discours national, ne sont pas là pour porter une histoire. Ils sont là, on n'a rien à leur demander, ils font absolument ce qu'ils veulent et c'est dans leur... en leur garantissant cette plus grande liberté possible, c'est-à-dire en n'intervenant pas, qu'on peut les soutenir le mieux qui soit. Donc, ils ne sont pas assujettis à quelques propos que ce soit. Mais lorsqu'on regarde derrière soi, lorsqu'on regarde tout ce qui a été créé, alors oui, cette histoire qui n'est pas qu'une histoire politique, notre histoire qui n'est pas qu'une histoire politique, qui est une histoire de la production artistique, qui mêle en général les nations. Il y a une histoire de la création en exil. Il y a une histoire de la création contre, évidemment, les institutions en réaction. Mais cette matière-là, toutes les productions artistiques, tout ce qui a pu être créé sans soutien ou avec le soutien d'un pouvoir politique, ça constitue la matière de notre histoire.
En lisant votre livre, Laurence Angèle, je me suis demandé si finalement vous ne défendiez pas une conception très jacobine ou centralisatrice de la politique culturelle, c'est-à-dire vraiment impulsée par le haut pour mettre fin à des résistances ou pour renouer avec cette espèce de puissance publique au service de la culture aussi.
Ouais. Enfin, cette question, elle est très, très paradoxale parce que l'idée d'un art soutenu par l'État est en soi dangereux. Enfin, en France, historiquement, et partout dans les régimes autoritaires. Donc ça ne peut pas être que cette question. Enfin, de mon point de vue, la politique publique, elle a pour vocation de protéger alors le patrimoine et de soutenir les artistes d'aujourd'hui. Elle a pour objet central de réguler, parce qu'on est dans un champ qui est très marqué par les industries culturelles, par des pouvoirs industriels très puissants. Donc, comme dans tout secteur économique, l'État, s'il veut éviter une concentration trop forte, permettre la défense justement des auteurs contre les producteurs, les éditeurs qui sont plus forts par définition, doit intervenir si on veut assurer la transmission au plus de citoyens ou de personnes possibles, parce qu'il n'y a pas de possibilité économique d'assurer ce dispositif sans intervention de l'État. L'État a là tout son rôle, mais c'est un rôle qui doit être aussi limité. Donc, non, retour au jacobinisme, non, je ne crois pas. C'est vrai que je défends beaucoup les institutions, mais au contraire, il faut veiller à bien articuler le rôle de l'État avec celui des collectivités territoriales, qui est majeur, avec celui des associations, qui l'est encore davantage, et peut-être, au contraire, limiter l'État, le rôle de l'État, à ce qui ne peut pas être assuré par d'autres. Il se trouve que je préside en ce moment une institution qui fait partie de celle-là. Assumer le dépôt légal, c'est-à-dire cette conservation de toutes les productions éditoriales dans tous les champs de la création pour les générations futures, pour en garder la trace, pour permettre aux chercheurs de venir travailler sur ces collections. Alors cela, il n'y a pas un seul opérateur privé qui pourrait le prendre en charge parce qu'il n'y a pas de rentabilité justement à la clé. Il n'y a pas une personne privée, enfin un individu qui pourrait le faire. Donc cela, c'est certain, ça doit être une décision et une charge assumée par l'État. Mais au contraire, réservons à l'État ce que seul lui peut faire et veillons à ce que l'ensemble des acteurs puissent librement intervenir dans ce champ.
Alors un dernier point, parce que l'émission va s'achever bientôt, mais la BNF que vous présidez, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de culture, un lieu de vie évidemment, avec tout ce qu'on a dit, c'est une institution, c'est un grand projet qui a réussi, Laurence Angel ?
Alors, c'est un grand projet qui a réussi si on remonte avant la notion de grand projet telle que, justement, Jacques Lang et François Mitterrand l'ont quasiment théorisé, puisque c'est François Ier et l'invention du dépôt légal. Donc on remonte vraiment à très très loin, et là on voit bien que c'est une institution au sens fort, c'est-à-dire c'est un outil juridique régalien qui fait tenir les choses. Donc on est institution au sens propre, mais c'est aussi, et donc avec cette dimension patrimoniale absolument extraordinaire, parce que tout ce qu'on conserve est fabuleux, ce sont des trésors au sens premier du terme. Mais c'est aussi une bibliothèque. Donc un lieu familier, là où tout le monde peut venir pour travailler, éventuellement pour consulter, pour lire, mais déjà aussi pour travailler. Et c'est là où la dimension de grand projet François Mitterrand, puisque c'est pour la nouvelle partie de la bibliothèque François Mitterrand, un grand projet tel qu'on les a inventés à ce moment-là, qui a en effet réussi. Et puis c'est une grosse machine technologique, donc une grande institution qui a su se moderniser complètement. Et puis c'est un lieu fait pour rêver, parce que c'est un magnifique endroit qui est en train de se rénover sur son site historique. On va réouvrir un nouveau musée, un endroit où les gens vont pouvoir venir vivre,
habiter la BNF. Bon, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Laurence Angel. Cette émission s'achève. Je vous remercie chaleureusement d'être venu nous accompagner pour la 50e. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Que peut la culture ? C'est sorti aux éditions Bartilla en 2017. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.